Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André Dumbuima, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission Parole aux auditeurs. Environ 70 civils ont été tués, une vingtaine d'autres sont portés disparus et plusieurs habitations ainsi que des véhicules incendiés. C'était la nuit de lundi 8 à mardi 9 septembre lors d'une nouvelle attaque des EDF dans la localité d'Entoyo, située à 7 km de Mangourejipa, chef-lieu du secteur de Bapéré, territoire des Lubero au nord Kivu. La société civile, qui parle d'un bilan encore provisoire, redoute qu'il s'alourdisse car de nombreux habitants restent introuvables. Au même moment, toujours au nord Kivu, mais cette fois-ci dans les territoires des Beni, 18 civils ont trouvé la mort mardi 9 septembre à Fotodou, une zone agricole située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Oicha. Là aussi, selon la société civile, les bilans restent provisoires car plusieurs agriculteurs sont portés disparus. L'armée s'est déployée dans la zone pour traquer les assaillants. Que vous inspire ces regains de tueries malgré les opérations conjointes FRDC et UPDF dans cette partie du pays? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ces nouveaux numéros de paroles aux auditeurs de ces jours. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net pour réagir dans les groupes WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 099 706 80 79 099 706 80 79. Depsevita est à la mise en onde de ce magazine et Patrick Kiasongwa assure le live de cette émission et Julie Feza Bongonda en assure la réalisation et la coordination. À la présentation, Guy Maté.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ce pays, n'existe pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Encore une fois, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Parole aux auditeurs. Merci à tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook et aussi qui se sont fait inscrire pour réagir. Nous parlons, comme nous l'avons dit, nous parlons aujourd'hui de ces nouveaux massacres commis par les EDF d'environ 90 civils dans un espace de 2 jours dans les territoires des Lubero et des Beni au nord Kivu. Et pour échanger sur ce sujet, nous recevons ici au studio Karline Zanzu-Kasivita. Il est député national élu des Beni territoires. Il est aussi gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Bonjour, honorable Karline Zanzu-Kasivita.
Bonjour, Guy Martin. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Voilà, nous voulons préciser que vous devez être avec nous, n'est-ce pas, au studio, mais vous êtes bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Mais on espère que d'ici là, vous allez nous rejoindre au studio. Mais on commence avec vous déjà au téléphone. Monsieur Karline Zanzu-Kasivita, plus de 90 civils sont tués dans un espace de 2 jours dans une contrée où sont déployés les FRDC et les UPDF, les unités spéciales FRDC et les UPDF, et aussi une contrée où l'état de siège est en vigueur. Dans quel esprit vous vous trouvez quand vous apprenez de telles nouvelles, monsieur Karline Zanzu-Kasivita?
D'abord, comme député national, il faut vous signifier que je partage la peine de toutes les familles des victimes qui ont été assanglantées par la barbarie des ADF Nalu, mais aussi comme Congolais, vous le savez très bien, nous sommes en train de perdre des civils tous les jours, mais aussi des biens, parce que les ADF, quand ils tuent les populations, en même temps, il détruit tout ce qui est économie de la région. Et donc, comme député national, je partage la peine de toute la population du Nord Kivu et de l'Ituri qui sont victimes de cette barbarie de la DEF. Mais cela renforce ma conviction que la guerre des ADF n'est pas encore gagnée. Nous devons encore fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions terminer cette barbarie qui date depuis des 10 ans.
Oui, cette guerre, comme vous le dites, hein, n'est pas encore terminée. Les faits sur le terrain confirment cela. Et aussi longtemps, n'est-ce pas, que les tueries des civils vont continuer, on ne cessera, n'est-ce pas, de s'interroger sur les mesures qui doivent être prises pour mettre fin à ces carnages. Monsieur le gouverneur, l'ancien gouverneur, nous savons que nous avons un service de renseignement. Chaque État normal doit avoir des services de renseignement. Alors, la question qui se pose souvent dans l'opinion, est-ce que chez nous, les services de renseignement sont mis à profit, n'est-ce pas, dans la traque de ces assaillants? Parce que, justement, leur rôle, c'est celui d'anticiper et de prévenir ces types d'attaques.
Ce qui est vrai, toutes les guerres répondent à une logique, que ce soit des guerres classiques, que ce soit la traque ou guerre contre les terroristes. Et comme vous le savez aujourd'hui, les ADF sont un phénomène terroriste. Il est vrai qu'à un moment donné, il y avait eu plusieurs versions sur cette question, de mauvaises communications, qui avaient même entamé la compréhension de la population, parce qu'à un moment donné, il y avait eu des opinions qui passaient qu'il n'y avait pas des ADF. Aujourd'hui, de plus en plus, cette conviction, se renforce. Les gens comprennent que les ADF existent. Ils ont été traqués par la coalition FRDC, UPDF, dans la vallée de Mualika, dans les Rwenzori, du côté Watalinga, mais aussi du côté Kainama. Aujourd'hui, l'épicentre de massacres se localise du côté de Lubero, mais aussi à l'ouest de Oucha, et dans le territoire de Mambasa, mais aussi du côté de l'Ituri. Cela signifie qu'effectivement, il y a un problème à terme de poursuites. C'est vrai qu'on peut avoir des unités compactantes qui poursuivent les mouvements des ADF, mais il faut aussi avouer que l'espace est assez grand, l'espace est couvert d'une grande forêt. Il faut plus de moyens, non seulement les moyens humains, mais aussi un renseignement aujourd'hui adapté à la technologie. Parce qu'au fait, il faut suivre continuellement leurs mouvements, il faut les étouffer, il faut les isoler, évidemment, de grandes agglomérations où ils tuent la population pour que ces gens ne puissent plus continuer à endeuiller notre population.
L'espace est grand, comme vous le dites, monsieur le gouverneur, mais on sait que ça fait plus de 10 ans que ces ADF tuent tous les jours des civils, et ça qu'ils ne soient, n'est-ce pas, mis hors d'état de nuire. Et là, tout de suite, deux hypothèses s'imposent. La première, soit les ADF sont invincibles parce qu'on n'arrive pas, n'est-ce pas, à les neutraliser. Soit, c'est la deuxième hypothèse, soit les opérations militaires contre ces ADF, c'est des opérations qui ne sont pas, n'est-ce pas, proportionnelles, n'est-ce pas, à la menace que représentent ces assaillants. C'est quoi l'hypothèse la plus plausible pour vous?
Comme dans tous les pays qui ont des ADF, plutôt des terroristes, il faut avouer que à un moment donné, on a mis la pression sur les ADF. À un moment donné, on a eu des répits. Mais comme ce sont des cellules dormantes, ils ont toujours la possibilité de réactiver. C'est pourquoi nous devons continuer à veiller à ce que ces ADF ne puissent plus continuer à avoir la possibilité de tuer la population. Et cela suppose qu'il faut bien investir et dans les renseignements, mais aussi dans les capacités défensives. Moi, je pense, aujourd'hui, je suis pas militaire, mais je pense que le poids de la guerre que nous avons du côté de Goma, du côté de Bukavu, a un impact négatif sur le déroulé des opérations contre les ADF. Je crois à ça.
En tant qu'élu de là et ancien gouverneur, n'est-ce pas, de cette province, vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi les alertes de la population ne sont jamais prises en compte par l'armée, parce que la population, chaque fois quand il y a carnage, dit qu'elle lance des alertes, mais l'armée n'intervient jamais à temps. Et c'est après 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, même une journée, que vous voyez les services de sécurité arriver pour constater les dégâts. Qu'est-ce qui peut expliquer ces faits-là, même si l'espace est grand, comme vous l'avez évoqué tantôt, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a des unités qui ont été envoyées là-bas pour combattre une menace un peu exceptionnelle, spéciale? Ils connaissent bien la nature de cette menace, mais ils sont informés quand la menace est précise, mais les unités n'interviennent pas. Qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cela. D'abord, les capacités opérationnelles des unités combattantes, mais aussi les sources de renseignements ou bien la capitalisation de tous ces renseignements donnés par la population. Parce qu'il faut avouer aussi que dans la région, les mêmes ZADF peuvent jouer à la diversion. Il faut aussi dire que l'accès facile à ces milieux pose problème. Il y a quand même des endroits où vous n'avez pas ni route, vous n'avez pas ni accès, et c'est des villages isolés, et c'est plus possible évidemment que les ZADF sachent que même si on peut avoir une position de l'armée à quelques kilomètres, soit 5-6 kilomètres, il faut capitaliser, il faut compter le temps qu'on doit faire en pied pour atteindre tel village. Et je crois que c'est leur mode opératoire est adapté évidemment à l'environnement, et c'est la raison pour laquelle nous devons non seulement avoir des unités qui protègent les grandes agglomérations, mais aussi des unités de poursuite. Donc il est vrai que au niveau de l'approche militaire, il y a beaucoup de choses qu'il faut adapter au mode opératoire des ZADF Nalu.
Voilà, vous dites qu'ils peuvent jouer à la diversion, ça c'est vrai, mais ça fait plus de 10 ans qu'ils sont, n'est-ce pas, en train de commettre ces forfaits, et donc on est censé connaître, maîtriser leur mode opératoire, parce que souvent ils s'en prennent, n'est-ce pas, la population lorsqu'ils se sentent acculés par l'armée. Cela veut dire que si on est proactif, si l'armée est proactive, elle peut, n'est-ce pas, déjouer les projets de toute attaque, n'est-ce pas?
C'est pourquoi je dis que nos approches jusque-là se révèlent aussi limitées, parce que, évidemment, compte tenu de l'environnement, de l'espace, de l'étendue, il faut avoir non seulement des unités qui protègent les grandes agglomérations, mais aussi les unités de poursuite. Il ne faut pas lâcher les poursuites contre les adverses. Nous avons toujours réussi à les pousser, à les combattre, à les délocaliser de certains endroits, mais il faut évidemment se rassurer qu'on est arrivé à les neutraliser partout où ils sont. C'est ça la problématique. Mais il faut avouer aussi que des petites cellules d'ADF dormantes peuvent continuer à causer des dégâts matériels et humains sur la population du Nord Kivu.
Voilà, nous avons beaucoup de réactions de la part des auditeurs et internautes. Hein. Oui. Ici, c'est Blaise Kangela Ngumbi, politologue depuis Kindu au Maniema, qui dit c'est avec une sidération profonde, un chagrin immense, que nous avons suivi ces énièmes attaques des terroristes EDF à l'est du pays, causant un nouveau crime de masse dans les territoires de Beni et Lubero. Je présente mes plus sincères condoléances à toute la population meurtrie par cette misère, ces tueries et cette insécurité grandissante. À mon analyse, la persistance de cette insécurité, malgré les opérations conjointes FRDC-UPDF, traduit une incapacité de l'État congolais à établir une gouvernance efficace sur tout son territoire. Ce phénomène est internationalisé par l'imbrication d'acteurs politico-militaires, multinationales et organisations internationales qui trouvent des intérêts. Comment se fait-il que dans un État comme la RDC, où toutes les forces de sécurité existent, les populations soient massacrés dans les villages sans que les services de renseignement soient informés. Jusqu'à quand l'arrogance du pouvoir central de Kinshasa s'y penchera pour éradiquer cette guerre plurielle à l'Est? L'Est de la RDC semble passer au contrôle des seigneurs de guerre avec des zones où chaque groupe impose sa loi dans une omerta du pouvoir central passif. Dans un état normal, ces disparitions massives devraient faire l'objet d'enquêtes sérieuses pour identifier les commanditaires et entraîner des sanctions au plus haut niveau du gouvernement central. Je pense qu'au stade actuel, seul un dialogue franc avec tous les groupes rebelles locaux est nécessaire car le pays a montré son incapacité géopolitique est totale. Monsieur le gouverneur, bonjour, nous vous recevons dans ce studio, vous venez d'arriver. Voilà, est-ce que vous avez bien suivi la réaction de notre auditeur Blaise Kangela depuis Kindu Maniema?
Comme tout Congolais qui partage les sentiments de détresse comme nous tous, il a raison de constater que effectivement cette tuerie, on beaucoup dirait, on peut arriver à passer qu'on est dans un omerta, mais il faut bien suivre l'évolution de tous les terroristes dans les pays africains. Et donc nous ne faisons pas l'exception, parce qu'à un moment donné, il faut regarder ce qui se passe dans les Sahel, le Burkina Faso. À un moment donné, il y avait des répits, il y a eu même certains qui pensaient qu'il faut continuer à discuter, comme il a dit, avec les terroristes. Le président Blaise Compaoré l'avait fait au Burkina Faso, mais après, les cellules dormantes ont réactivé le terrorisme. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'au-delà de tout ça, il faut renforcer la capacité défensive d'un État. Il est vrai que nous ne pouvons pas nous les cacher. Nous avons encore de faiblesses d'autorité de l'État sur ces endroits. Il est plausible. C'est la raison pour laquelle je pense que effectivement, il faut que la République démocratique du Congo puisse investir dans des mécanismes de dissuasion. Il faut que nous renforcions notre système de défense. Évidemment, dans cette zone, on peut encore constater qu'il y a un foisonnement des groupes armés. Cela ne peut pas aussi aider la conquête contre les ADF Nalu. J'ai toujours pensé, et je l'ai redit ici, qu'il faut une approche coordonnée et au niveau national et au niveau local. Au niveau local, quand j'étais gouverneur, j'avais proposé que nous puissions, avec le pouvoir central, pouvoir organiser ce que nous appelons police locale de proximité, parce qu'au fait, il faut connaître la région. Dans cette partie de la République, vous pouvez trouver des grandes agglomérations de 5 000, 10 000 personnes, mais avec des militaires ou bien un policier. C'est la raison pour laquelle je pense que tout en considérant que les ADF sont bien structurés, mais il faut associer à la défense nationale des approches locales qui peuvent s'y plier à combler le vide. Parce que nous ne pouvons pas avoir un militaire à chaque millimètre carré de notre espace vital dans ces pays. Il est impossible, pratiquement quasi impossible.
Donc, d'où la nécessité d'accélérer le processus de la mise en œuvre de la RAD, n'est-ce pas?
La réserve militaire serait une des solutions. Je ne pense pas que ça soit la solution ultime. Voilà. Donc, il faut non seulement investir dans la technologie pour capaciter notre renseignement, mais aussi renforcer les unités combattantes, les unités d'élite des FARDC, en associant la réserve de l'armée. Et à ce niveau-là, à ce qui concerne les ADF, je pense que la RAD devra répondre à une logique d'approche locale. Il faut connaître les milieux pour être efficace, pour répondre effectivement à tous ces défis-là que nous avons toujours constaté, la gestion des alertes. Parce que dans la traque des ADF, vous avez bien dit dans la présentation et des demandes de la population, il y a la question de la gestion des alertes. Et donc, si nous intégrons l'approche locale dans ce que nous faisons, je crois que nous pouvons arriver à bien gérer et les alertes et en même temps être à mesure de mettre en déroute les activités des ANDF qui continuent à endeuiller notre population.
Merci. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Capi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de ces nouveaux massacres commis par les ADF d'environ 90 civils dans un espace de 2 jours dans les territoires de l'Obero de Beni au nord Kivu. On en parle, comme vous l'avez constaté, avec notre invité Karline Zanzoukasivita, député national élu de Beni territoire. Il est aussi gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 099 706 80 79, 099 706 80 79. Et donc, nous allons à présent ouvrir les standards.
Parole aux auditeurs.
Déjà en ligne, plusieurs auditeurs. On commence par, donc on va à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où Jérémy Mwamba est en train de nous appeler. Jérémy Mwamba, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Guimanté, bonjour également à Monsieur le Gouverneur. Nous saluons la pertinence de ce sujet. Et d'entrée de jeu, je présente mes condoléances à tous nos compatriotes qui sont en train d'être... écumé de ce côté-là, de l'Ubero. Alors, je voudrais juste présenter mes inquiétudes par rapport aux gouvernants de notre pays, parce que je me dis que lorsqu'il y a une politique, d'ailleurs, meilleure qui est mise en place, cela peut aussi en même temps désengager toutes ces situations auxquelles nous sommes en train de faire face. Qu'est-ce que nous disons? Nous avons toujours demandé à ce que notre pays ou les dirigeants de notre pays, surtout le régime actuel, puissent beaucoup s'atteler sur d'abord comment réformer notre armée qui présente jusque-là des failles au front. Parce que à quoi bon de décréter l'état de siège aussi longtemps que sur le terrain rien ne marche? C'est là que je dis ceci. Il faut que nécessairement que notre pays, via nos autorités, puisse changer la donne. Changer la donne, ça veut dire prioriser d'abord la situation sécuritaire. Parce qu'on ne peut pas aller à d'autres choses, embrasser beaucoup de choses à la fois, pendant qu'il y a des priorités. Lorsqu'il y a autant de milliers de Congolais, des dizaines de milliers qui meurent, tout ça, nous devons nous remettre en cause pour dire qu'on n'a pas mené une bonne politique pour arriver à résoudre ce problème. C'est là que je demande au gouvernement de pouvoir changer sa politique. Commencer d'abord, les autorités de l'ordre central doivent aller à l'est. Ils doivent installer leur état-major à l'est parce qu'ils ont décrété l'état de siège pour pouvoir voir de plus près comment nos populations, nos compatriotes sont en train de souffrir. Sinon, on est en train de faire, on fragilise les choses et rien ne marche.
Merci, merci beaucoup Jérémy Mwamba. Je rappelle que vous nous appelez, vous interveniez depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Nous partons maintenant en Ituri, à Bunia, où Georges Kilangalanga, qui est politologue et acteur politique, veut intervenir. Georges Kilangalanga, bonjour.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, à l'invité.
C'est plutôt Guy Maté qui est à la présentation aujourd'hui.
Oh, désolé. Voilà, Guy Maté, je pense que c'est avec un cœur meurtri que j'interviens. Parfois, les gens qui sont à Kinshasa ne savent pas ce que nous qui sommes à l'Est vivons. Et lorsque vous entendez toutes les informations des tueries, justement, ça soulève la question de l'existence réelle de l'autorité de l'État dans beaucoup des agglomérations de notre pays, surtout à l'Est. Ça soulève également une question de l'efficacité de services publics, mais également la sensibilité nationale au problème du Congo. On parle ici de presque 100 morts, 99 personnes tuées et d'autres ont été portées disparues. Jusqu'à présent, on ne connaît pas leur sort. Et nous, à ce temps-là, on est dans les matchs. Le président de la République est, je ne sais pas... Allô?
Oui, on vous suit. Allez-y.
Allô?
Oui, Georges Kilangalanga, nous vous suivons.
Oh là là.
Georges, est-ce que vous nous suivez? Vous nous entendez? Georges Kilangalanga, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là, mais apparemment, il y a un problème avec votre ligne. Voilà, donc on va essayer de récupérer Georges, la réalisation va essayer de les rappeler. Et nous quittons Bounia pour Bukavu, au sud Kivu, là où Amos et Bissimwa cherchent aussi à intervenir. Amos et Bissimwa, bonjour.
Bonjour, cher Guimete. Je tiens à saluer les nombreux députés de la radio Okapi, mais aussi l'honorable Carly, présentement au studio. En fait, de prime abord, je compatis avec toutes les familles qui ont perdu les leurs, mais aussi que les âmes de nos compatriotes qui ont été lâchement éprouvés reposent en paix éternellement. La situation qui s'est passée à Lubero et qui ne date pas d'aujourd'hui prouve à suffisance la défaillance du régime en place à sécuriser les peuples congolais. On n'a pas un autre mot à utiliser. Et ma première question à l'honorable, est-ce que lui, en tant que représentant du peuple, il est satisfait de la manière dont l'Union sacrée, sa famille politique, gère actuellement le pays, surtout la situation que traverse la population de l'Est, vraiment qu'il nous réponde. Parce que la plupart des fois, nos hommes politiques cherchent toujours à défendre leurs intérêts personnels, tout en sachant que rien ne va. Mais il sert à défendre l'indéfendable. Deuxième question, quelle est l'importance de l'état de siège aujourd'hui? Parce qu'à chaque fois au niveau de l'Assemblée nationale, prorogation, pour quelle finalité? C'est comme qui dirait nos députés seraient des robots qu'on manipule et qui ne réfléchissent plus, qu'ils nous disent réellement quel est le sens de prorogation de l'état, du fameux état de siège au Nord Kivu, mais aussi en Ituri. Ça, quel sens? Parce qu'on ne comprend plus absolument rien par rapport à ce qui se passe. Je l'ai suivi dire personne ne peut mettre un militaire à chaque mètre pour sécuriser la population. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on gère un pays. Ce n'est pas de cette façon-là. On connaît d'autres pays qui se gèrent avec un leadership responsable, avec une armée organisée, avec d'autres services de sécurité, dont les services de renseignement et autres organisés, et avec le pays est sécurisé, mais aussi sa population est sécurisée, ce qui n'est pas chez nous. On est en train d'observer, de constater que nous avons des dirigeants qui auraient leurs priorités ailleurs et qui ne savent pas ce qu'ils sont venus faire au pouvoir. La façon dont la situation de l'Est est actuellement gérée est en train de prouver à suffisance que le pays est entre les mains des défaillants. Ça ne s'explique pas. Qu'ils nous disent aussi quelle est l'importance de la mutualisation des forces ougandaises et congolaises. Parce que jusque-là, quand on nous dit les ADF ont tué, mais pourquoi ils ne tuent pas les Ougandais? Ils sont sécurisés parce qu'ils ont des dirigeants responsables. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais chez nous, comme on est dans un état qui serait dans l'arrêt, c'est là où tout le monde vient s'aventurer.
Merci.
Tous ces bandits-là qui quittent chez eux, qu'ils soient des Ougandais, qu'ils soient je ne sais qui, des Soudanais, trouvant un pays dans l'arrêt, ils viennent s'aventurer. C'est là que nous continuons à perdre nos concitoyens. Et vraiment, ça révolte.
Merci
ça
beaucoup,
révolte.
Amos.
C'est trop les Congolais. Mais...
Merci beaucoup, Amos Bissimwa. Je rappelle que vous interveniez depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu. Honorable Caroline Nzanzu Kasivita, députée nationale élue de Beni Territoire, vous êtes gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Plusieurs préoccupations relevées ici. On commence par Jérémy Mwamba de Lumbashi, qui a estimé que l'État congolais doit changer la donne, en fait, doit comprendre que la donne a changé et qu'elle doit, n'est-ce pas, mettre un accent sur la situation sécuritaire. Nous avons Georges Kilangalanga depuis Bounia qui évoque la question de la restauration de l'autorité de l'État. Nous avons Amos Bissimwa qui vient de parler et qui vous a posé une série de questions. Il parle de la défaillance, n'est-ce pas, du régime en place à sécuriser sa population et il vous a posé une série de questions. Êtes-vous satisfait de la manière dont l'Union sacrée est en train de gérer les pays, notamment par rapport à la situation sécuritaire? Et c'est quoi l'importance aujourd'hui de l'état de siège et de cette mutualisation des forces FARDC, UPDF? Vous pouvez répondre, monsieur le gouverneur.
Ah oui, je voudrais d'abord commencer par notre ami de Bukavu, Amos, qui qui, à un moment donné, comme Congolais, je partage ces sentiments parce qu'en fait, on peut pas être satisfait de la mort de nos compatriotes. Je peux lui dire que je suis le plus touché de ce qui se passe parce que non seulement c'est chez moi, mais aussi je perds des familiers et nous avons perdu des champs, une économie assez importante avec ce qui se passe dans cette partie de la République. Je partagerai à un moment donné un sentiment qu'il a, parce qu'effectivement je suis humain. Mais il faut avouer qu'à un moment donné, et cette question des Andef, nous devons éviter de l'analyser par rapport au régime. Je peux vous confirmer ici, et ça c'est contredire, parce qu'à un moment donné, les politiciens congolais pensaient que la question des tueries des Andef est liée au régime passé. Et les discours qui étaient orientés, c'était en fonction de la personne. Nous parlons de la question de la sécurité du pays. C'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec les deux premiers intervenants qui ont montré évidemment la nécessité de la réforme de l'armée, la nécessité de renforcer les renseignements et la nécessité effectivement d'être mobilisé comme pays. Et l'ami de Bukavu, Georges, a parlé de la sensibilité nationale.
Bounia.
Plutôt de Bounia. Il a parlé de la sensibilité nationale. Il faut que tous les Congolais comprennent que les attaques des ADF, des terroristes ADF à Beni, à Ituri, sont orientées contre la nation. À un moment donné, il y avait des analyses trop partielles. Les gens pensaient que c'est des questions locales, que c'est des questions entre le peuple là-bas. Et c'est des questions de commerce, des analyses comme ça ont émergé sur la toile et ont désorienté les décisions. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que tous les Congolais puissent comprendre que nous ne sommes pas aussi exclus de subir les affres de ce terrorisme au monde. Les études et les renseignements sont quand même poussés aujourd'hui pour montrer qu'il y a une collaboration entre les ADF et d'autres réseaux terroristes au monde. Et le financement de ces ADF à Beni est souvent assuré par l'État islamique. Vous avez toujours vu les revendications que l'État islamique fait après les tueries dans cet espace. Et donc, nous devons être conscients. Il est vrai que chacun de nous, la vitalité démocratique, notre ami de Bukavu, vous n'êtes pas obligé, évidemment, d'avoir le même point de vue avec ces QGR, mais moi je pense que nous devons nous placer au-delà de nos positions partisanes. Ici nous parlons d'un État, nous parlons de la vie des Congolais, nous parlons de la sécurité du pays, et j'exhorte les Congolais évidemment de penser que aujourd'hui Félix est un président de la République, mais demain il ne le sera pas. Mais si nous ne résolvons pas la question des ADF, c'est lui qui va arriver, il va trouver ces mêmes ADF comme on l'a vu avec le président Kabila, aujourd'hui avec le président Félix. Nous qui sommes de cette région-là, je ne crois pas que nous puissions continuer à prendre la dimension partisane dans la recherche de solutions sur des questions vitales de la nation. Je suppose qu'aujourd'hui, il est plus important, je suis tout à fait d'accord, qu'il est plus important d'accélérer la réforme. Je ne vais pas revenir sur la question de l'état de siège parce que depuis très longtemps, je n'ai jamais partagé le point de vue, même si les gens peuvent dire vous avez un sentiment parce que vous étiez un gouverneur civil. Mais je crois que la meilleure façon, c'est de capaciter nos forces de défense et de sécurité. L'état de siège en soi, c'est n'est pas la stratégie militaire. Il faut envisager des stratégies militaires qui vont nous permettre de déterminer ce qui se passe dans cette partie de la République et d'assurer la sécurité de la population.
Même si vous n'êtes pas d'accord avec l'auditeur de Bukavu Amos Bissimwa, est-ce qu'à certains points de vue, il n'a pas raison lorsqu'il parle de la défaillance de l'État, parce que, de l'avis de beaucoup d'analystes, étant donné que nous faisons face à plusieurs menaces, nous avons d'un côté les EDF, de l'autre côté nous avons des groupes armés locaux, de l'autre côté nous avons des rébellions organisées comme les M23, et de l'avis de ces analystes, les gouvernements congolais semblent beaucoup plus privilégier, n'est-ce pas, les M23, lutter contre les M23 et négliger cette menace qui est dans le Grand Nord et dans l'Ituri, la menace EDF, parce que pour ces analystes-là, les EDF ne menacent pas directement le régime en place. tandis que les M23 menacent directement le régime. Et donc, pour le gouvernement congolais, il y a une préférence, n'est-ce pas, pour combattre les M23 et négliger ce qui se passe dans les Grands Nord, dans les Touris. C'est pourquoi il y a des morts plus de tous les jours. Et les morts plus que même les morts que les M23 causent dans les parties qu'ils occupent.
Dans mes analyses, moi-même, j'ai parlé de la faiblesse de l'État. Et j'ai évoqué certaines stratégies. Et c'est là où peut-être notre ami de Bukavu ne m'a pas suivi, quand j'ai dit qu'on doit non seulement coordonner l'approche nationale, donc la défense nationale, doit capitaliser les approches locales. C'est à ce niveau où j'ai évoqué, et c'est tout à fait normal. Je ne crois pas qu'il y ait un État au monde qui a la possibilité d'avoir un militaire sur un centimètre, millimètre carré de son territoire national. Donc, pour nous, c'est une façon de dire, nous devons renforcer notre système de défense. Aujourd'hui, il est plausible aujourd'hui que la technologie a même suppléé à certaines stratégies. C'est pas nécessairement d'avoir des millions de militaires, mais il faut avoir la capacité de réagir au niveau des renseignements. La technologie peut nous aider. Au niveau des attaques, la technologie peut nous aider. Mais nous sommes d'accord qu'il faut renforcer l'autorité de l'État. Nous sommes d'accord qu'il faut réformer l'armée. Nous sommes d'accord que la mobilisation nationale doit être de mise pour cette question des ADF. Parce qu'au fait, il faut avouer que ce soit les ADF, que ce soit les MV3, c'est des guerres. Ces guerres ont des conséquences énormes sur la vie de la population, mais aussi de l'économie. Aujourd'hui, Beni et Ituri, c'est le bastion de cacao aujourd'hui. Si on devait tenir compte de ce qui se passe là-bas, c'est des milliards de dollars qu'on est en train de perdre. Et donc, il y a nécessité, évidemment, de renforcer la sécurité pour permettre...
Et la saison actuelle, c'est pas une saison de récolte du cacao?
Il faut aussi avouer qu'au-delà de cette question de la problématique du cacao, comme dans tous les autres pays, on peut avoir aussi une criminalité organisée autour de cette situation économique de cacao.
Voilà, il y a les condensés des réactions des auditeurs. Les réactions des auditeurs traduisent une profonde inquiétude, une colère face aux massacres répétitifs dans l'est de la RDC, mêlant plutôt dénonciation, appel à l'action et proposition des solutions. Les réactions favorables, ces auditeurs appellent à une refonte urgente et globale de la stratégie sécuritaire pour protéger la population civile, renforcer les renseignements et la justice, démanteler efficacement les groupes armés et investir dans le développement socio-économique pour briser le cycle de violence. Et ils insistent sur l'importance d'une implication réelle des autorités nationales et de la communauté internationale pour mettre fin à cette crise. Ces auditeurs qui sont favorables, n'est-ce pas, qui soutiennent, n'est-ce pas, cette position. Il y a Blaise Kangela Ngumbi, Baraka Godefroy, Blaise Saïdi Atoubou, Maître Kamani Luamba Chadrak, Gaston Gandou, Eric Mungu Jakissa, Guillaume Prakash, John Numbi Omande, Christophe Kagagba, William Moulenda. Et une position défavorable, ces voix dénoncent l'inefficacité flagrante de l'armée et de l'État congolais, évoquant des complicités internes, une connivence avec les groupes armés, ainsi qu'une indifférence politique au massacre. Ils remettent en cause les partenariats régionaux, la gestion des opérations et la posture politique des dirigeants, appelant parfois à des changements de leadership drastiques. Ceux qui soutiennent cette position, c'est Christian Kassessé, Peter Maboudi, Maître Athanase Kandolo, Benga Caleb et Mwania Melchi, Steve Baoguere, Ezekiel Pendekaza, Obed Tamwasi, Sylvain Agenorf, José Bungana, Jérémy Mwamba, Junior Bompongo, Kasereka Kanyunu, Georges Kilangalanga. Et ceux qui sont neutres, mitigés, ces réactions adoptent un ton mesuré, rappelant la nécessité d'entendre la d'entendre la douleur des populations tout en soutenant un dialogue pour la paix et la réconciliation sans se prononcer directement sur les responsabilités politiques ou militaires. Il s'agit des pasteurs de Dieudonné Mutombo, Jérôme, Blaise et Kangela Ngumbi. Et voilà, et en conclusion, jusqu'à quand l'État congolais parviendra-t-il à restaurer la paix et la sécurité effective dans l'est du pays? Monsieur le gouverneur.
Il faut considérer que la vitalité de la démocratie nous donne tous droit d'analyser ce qui se passe. Mais du moment où il y aura toujours des morts à l'est de la République démocratique du Congo, dans le pays, le sentiment des Congolais sera, ce que vous êtes en train de suivre. Il est de notre devoir, surtout les gouvernants, parce que je suis ici comme député national, je suis pas un gouvernant. Les gouvernants doivent faire tout pour que ce qui se passe dans notre pays puisse s'arrêter. Il est possible. Nous ne pouvons pas investir dans le désespoir. Moi, je pense qu'il est possible parce que toutes les fois qu'il y a eu des actions coordonnées, on a toujours senti le relâchement. Et nous avons vu avec la mutualisation. Il est vrai que chacun de nous peut avoir un point de vue, mais il est aussi vrai que certains espaces ont été sécurisés, mais malheureusement, les espaces qui étaient aussi paisibles ont connu les débuts des massacres, comme le secteur de Bapere. Les atrocités se sont déplacées vers l'Ituri, côté Mambasa, et aujourd'hui, on voit, ça refait au niveau de Oicha, du côté ouest. Donc, il y a nécessité évidemment de considérer que les efforts militaires qui sont déployés aujourd'hui doivent être renforcés et nous devons, au niveau politique, continuer à mobiliser plus de moyens. Il ne faut pas donner l'impression comme si, comme vous l'avez si bien dit ici, il ne faut pas donner l'impression comme si l'attention est mise sur la question de 1-23 et la question des ADF est laissée au calende grec. Je crois qu'il faut mobiliser, nous allons continuer à mobiliser l'opinion nationale. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté même de participer à cette émission pour que elle, les dirigeants, et nous tous Congolais qui aimons ce pays, puissions comprendre que la population est en train de souffrir et que le pays est en train de perdre des économies énormes. Je vous dis que cette région, c'est une des grandes parties de la République qui peuvent aider ce pays à se développer, mais à faire face à d'autres défis.
Voilà, on retourne à notre standard parce qu'il y a encore des auditeurs qui veulent intervenir. Voilà, on me signale que Georges Kilangalanga est de nouveau en ligne. Georges Kilangalanga, vous êtes là?
Oui, monsieur Guimateur.
Voilà, on vous a perdu quand vous parlez de la question de la restauration de l'autorité de l'État. Vous pouvez continuer.
Merci pour m'avoir retrouvé. Je pense que monsieur Guimateur, nous avons un stage. Il faut qualifier ça d'État ou soit que nous sommes un État par accident ou par... Je ne sais pas. Monsieur Guy Maté, nous parlons de plus de 100 morts. Et je parlais tantôt de la... Je parlais de la sensibilité nationale. Pendant ce temps-là, on voit Israël se battre pour quelques personnes qui sont kidnappées par le Hamas. Mais chez nous, on perd 100 personnes. Le président est ailleurs. Les ministres font des communiqués, les gouvernements font un communiqué, et puis il met en témoin la communauté nationale et internationale, l'armée fait la même chose, et puis finalement nous ne comprenons absolument rien. On a des Ouazalendo qui se battent contre le M23. Pourquoi les Ouazalendo, les patriotes, ne se battent pas contre les ADF qui nous tuent chaque jour? Comment on peut expliquer? Pendant que nous sommes tués jour et nuit, et nous, on est dans des matchs en train de boire, on fête. Et à Kinshasa, vous avez posé une question très importante à l'invité. Pourquoi, même les M23 ne tuent pas comme les ADF, pourquoi le gouvernement semble prioriser la question de M23 plus que d'autres questions? Tout simplement parce que la menace pour le pouvoir n'est pas encore sentie. Les ADF ne menacent pas le pouvoir de Kinshasa. Le jour où les ADF menaceraient le pouvoir de Kinshasa, on aurait vu une mobilisation nationale.
Merci,
Georges. Monsieur Guy Maté, c'est avec l'arme que nous intervenons dans cette émission.
Merci.
Nous avons des dirigeants vraiment irresponsables.
On a compris.
Il n'y a pas d'autre mot pour les dire.
On a compris, Monsieur Georges Kilangalanga. On quitte Bounia pour Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Maître Patrick Odia, bonjour.
Bonjour à l'honorable le Vité et à tous les candidats. Merci de m'associer à ce niveau du débat. J'ai un sentiment négatif à l'égard de l'honorable, du propos de l'honorable, pas de l'honorable, mais de son propos, lorsqu'il dit qu'il n'est pas gouvernant, lui il est qu'un député. Mais je voudrais pas ici rappeler ses prérogatives en tant que député et qui doit légiférer, qui doit contrôler, sanctionner l'exécutif. Exécute ou quoi? C'est le programme qui a été déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Et si ce programme de gouvernance ne tient pas, je pense que l'honorable, en tant que député, il devait tirer toutes les conséquences législatives et réglementaires pour sanctionner qui des doigts. Et là, je ne voudrais pas ici entrer dans ces initiatives parlementaires allant dans le sens de sanctionner, comme il lui est reconnu par la Constitution ainsi que d'autres textes réglementaires, de sanctionner si les gouvernants, comme il se doit également l'action. Ça, c'est peut-être pour dissiper malentendu. Mais Marcel, vous avez vu, j'allais dire, Guy Maté, vous avez vu ici qu'il y a 90 morts ou 90 décès. Aucun message du gouvernement national, provincial ou des députés ou des alertes et tout ça. Blaise, je pense, ou Georges Kilangalanga ou Blaise Saïd, il l'a dit tout à l'heure même. Parce que l'IEPDEF ou les adeptes, ANEP, comment je vais appeler comme ça, les rebelles ici, ne pèsent pas ou ne présente pas la menace pour l'État congolais ou pour le gouvernement ou le régime de Kinshasa. Mais quand M23, il s'agit d'M23, là, il faut mobiliser des moyens, de l'armée, tout ce qui va vers des partenariats pour qu'on trouve et qu'on dialogue. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas pousser l'État congolais de pouvoir s'intéresser de plus en plus également de la question? D'autant plus également, il y a une inquiétude de Guy Maté, qu'il y a ici l'armée et aussi l'armée ougandaise, UEPDF, ou c'est IEPDF, qui est une opération conjointe pour traquer les ADF Nalou également. Mais jusqu'à présent, aucun résultat concret sur terrain. Mais à quoi sert encore ces alliances entre l'Ouganda et d'autres armées également?
Merci.
J'ai lu, madame m'a dit que ce matin également, pourquoi ces mouvements rebelles, entre guillemets, formés pour menacer l'Ouganda, Burundi et les autres, mais ils menacent plus en RDC qu'en DO. Et merci, moi, je pense, j'interpelle ici le Parlement qui devait prendre les initiatives, alors dans le sens de sanctionner, de coordonner également et de sanctionner qui n'exécute pas préalablement, notamment le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et tous les gouvernements. Mais si ça n'a pas été fait, je pense que la responsabilité, c'est elle est partagée.
Merci.
Et alors dans le sens de sensibiliser, mais aussi de sanctionner également.
Merci, Maître Patrick Odia. Nous quittons Lubumbashi pour Likasi, toujours dans le Haut-Katanga, où M. Rifin Bonso appelle. M. Rifin Bonso, bonjour.
Bonjour, merci, M. Guy Maté. J'aimerais juste contribuer à notre émission d'aujourd'hui, la plus vraiment chaleureuse et plus douloureuse. J'en profiterai pour dire mes condoléances. Non aux animaux qu'on a tués de l'autre côté, dans notre pays à l'est, mais à mes frères congolais, oui, fervents, mes condoléances. J'aimerais juste dire ceci à l'invité, que n'y a-t-il pas moyen de changer les systèmes des choses en termes d'opérations en matière de la sécurisation de la population? Parce que je me souviens très bien lorsqu'il y avait, moi je ne sais pas, de l'insécurité, lorsque M. Kabila avait pris le pouvoir, et cette insécurité-là avait pris fin comment? Parce qu'on avait doté, voire même des armes à la population, oui, sous forme de quoi? Des frappes comme ça. Et maintenant la population aussi se tenait debout pour... mettre hors d'état de nuire, les gens qui commettaient l'insécurité. Et par là, il y avait vraiment un résultat, un bon résultat. Et maintenant, pourquoi pas aujourd'hui, alors, nous sommes en train de constater que les gens de l'ADEF sont en train de tuer nos frères, mais pendant que nous savons aussi... nos alliés ougandais, les armées de l'UPDF, ainsi que les FARDC en train merci. D'opérer là-bas.
Merci, Refin Gosso.
Merci,
on a compris.
C'est un peu ça, donc
on a compris
donner,
votre idée.
Oui, on doit donner les armes
on est déjà à la fin de l'émission, aussi, oui. Voilà. Donc, il faut donner maintenant l'occasion à l'honorable Kalin Zanzoukasevita de pouvoir réagir à toutes ces préoccupations. Allez-y.
En fait, le dénominateur commun de toutes les réactions, c'est la compassion. Vous l'avez suivi. Tout le monde a besoin que notre population soit sécurisée. Mais il faut avouer que nous n'allons pas entrer ici dans la guerre des concepts pour notre ami de Lubumbashi Patrick. Je suis législateur, comme il l'a si bien dit, mais je suis pas l'exécutif. Et c'est clair, l'auditoire doit bien le comprendre. Mais ici, nous parlons de la question de la responsabilité
de l'État. Parce que vous êtes législateur, vous êtes parlementaire, vous avez les devoirs et l'obligation de contrôler et de sanctionner lorsque les choses ne marchaient pas.
Je n'ai pas dit le contraire. Nous ne pouvons pas nous dédouaner aussi pour ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle, j'ai bien dit, nous devons pousser le gouvernement à améliorer les questions de la gouvernance sécuritaire. Et quand je parle de la gouvernance sécuritaire, c'est aussi la défense, c'est aussi des approches que j'ai développées ici, des approches qui peuvent être locales et complémentaires à ce qui se fait aujourd'hui. J'ai parlé même de la coopération militaire que nous avons avec les Ougandais. Évidemment, nous devons comprendre qu'une armée étrangère reste toujours une armée étrangère. Les Ougandais ne vont pas remplacer les FARDC. Nous devons construire notre système de défense parce qu'aujourd'hui, on peut mettre à déroute 60-80% des ADF, mais si nous ne parvenons pas à neutraliser à 100% les ADF, les 40 restants vont se réorganiser. On l'a vu dans l'État en 2016 avec les opérations qui étaient menées à Beni, où on avait complètement rasé pratiquement les bastions des ADF, mais on a pris du temps pour mettre la pression sur les cellules dormantes. Et aujourd'hui, on revient à la case de départ. Et je crois qu'il est important pour nous de tirer les leçons du passé, de considérer aujourd'hui que la menace n'est pas celle que les gens présentent. J'ai suivi notre ami de Lubumbashi qui pense que les ADF ont été formés pour tuer les Ougandais. Je crois qu'il ne suit pas l'évolution de ces groupes terroristes. Il faut suivre l'évolution de ces groupes terroristes pour comprendre que nous avons intérêt à investir.
Voilà.
Dans notre système de défense.
Un mot
de
en guise de conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez dit ici que les atrocités sont en train de se déplacer. Et vous ne pensez pas qu'il faille repenser la stratégie qui est utilisée, parce que le fait de pousser les ZDF à l'intérieur du territoire national congolais, ils vont un jour se retrouver à Kisangani, même à Kinshasa.
Il est important, évidemment, de repenser. Et la meilleure façon de faire, c'est de renforcer notre système de défense et de sécurité, parce qu'au fait, quand on les attaque à un endroit, il ne faudrait pas qu'ils aient la possibilité de se réinstaller dans un autre endroit.
Merci, c'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons merci à notre invité, Kalin Zanzoukasevita, député national élu de Beni Territoire. Il est aussi gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Depsi Vita qui était à la technique et à Patrick Kassongwa et Paul Badianyama à la vidéo et Julie Feza Bongonda qui a réalisé et coordonné cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouak à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite au programme sur Radio Okapi.